Santé pour tous. Santé pour tous. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix. Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolloux pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être.
Pourquoi faut-il encore parler de santé mentale? L'expression santé mentale indique la notion de santé qui évoque une idée positive. Comme on dit, quand la santé va, tout va. Cela est vrai, autant sur le plan physique que mental. Tout le monde peut être emmené à un moment ou à un autre de sa vie à se questionner sur sa santé mentale et à s'en soucier. Comment parler de santé mentale ou plus concrètement de troubles de la santé mentale? Prendre conscience des préjugés et des biais cognitifs dont on fait preuve est souvent utile pour aborder un sujet aussi complexe. Il existe mille et une façons de prendre soin de sa santé mentale. Voyons quelques solutions avec un expert. Il est professeur titulaire de psychiatrie à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. Il est aussi le chef du service d'hygiène mentale à l'Institut national de santé publique. Et puis, dans Hello Docteur, deuxième partie de ce magazine de santé, il sera question des oreillons chez les enfants, une maladie contagieuse causée par un virus. Pourquoi faut-il se préoccuper des oreillons? En Côte d'Ivoire, le programme élargi de vaccination PEV a contribué à une nette diminution de cas d'oreillons. Cependant, comme la rougeole, la couverture vaccinale de la population contre le virus reste insuffisante. Le vaccin rougeole, oreillon, rubéole est recommandé dès l'âge d'un an et des rattrapages sont possibles chez l'adolescent et chez l'adulte. Oreillons, on en parle dans pas longtemps avec un pédiatre.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix. Professeur Yeo Tenena Jean-Marie, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur titulaire de psychiatrie à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan Cocody. Dites-nous, professeur, qu'est-ce que c'est que la santé mentale?
Tout simplement, je vais vous dire que la santé mentale ne va pas se résumer aux troubles mentaux. Ça va au-delà des troubles mentaux. C'est le fait qu'un individu se sente bien, qu'un individu soit adapté à son milieu et qu'il soit productif, qu'il se sente bien. C'est ça. On a souvent tendance, lorsqu'on entend le concept de santé, de voir en face la maladie. Mais le concept de santé mentale va au-delà des troubles mentaux. Parce que si on se limite aux troubles mentaux, c'est purement la psychiatrie. C'est encore plus large. Et c'est transversal, ça touche toutes les disciplines de la médecine.
Alors on comprend que la santé mentale n'est pas la maladie mentale. Quels sont éventuellement les aspects qui rentrent en ligne de compte dans la santé mentale?
Dans la santé mentale, beaucoup d'aspects rentrent en ligne de compte. Mais permettez-moi déjà de vous dire, par exemple, qu'au niveau du programme national de santé mentale, ils ont établi une fiche que nous utilisons lorsque nous faisons la psychoéducation de nos patients. Il y a 10 recommandations qu'ils font. La première, par exemple, il faut manger équilibré. Alors, cela veut dire qu'il y a des informations qu'on va donner au sujet sur son alimentation. En fonction de son état organique, bien sûr, il faut avoir des loisirs. On sait très bien que le loisir, c'est important pour l'individu. Et même dans la réhabilitation de nos patients. Lorsqu'on a des patients, pour que quelqu'un soit adapté à son travail, lorsqu'un handicap survient, il faut lui maintenir le travail, il faut lui maintenir le loisir, il faut lui maintenir les liens sociaux. Donc c'est important qu'un individu ait des loisirs.
Quand vous parlez de loisirs, il y a des loisirs qui ne sont pas forcément simples.
Quand je parle de loisirs, je parle par exemple le sport, il y en a qui aiment écouter la musique. Un loisir quand même qui n'est pas nocif pour sa santé, mais on sait que l'alcool peut être nocif pour la santé. Quand on consomme de l'alcool, c'est pas tout le monde qui a une consommation disciplinée. Ensuite, c'est entretenir des bonnes relations familiales, amicales et professionnelles.
Mais c'est tout un art quand même, entretenir une relation, ça demande une grande maîtrise.
C'est un art parce que entretenir des bonnes relations, c'est pas seulement l'individu. Il y a le milieu, là où il est. Donc, on peut être amené à ce niveau-là si certains problèmes se posent. Lorsque nous avons les souffrances en face de nous, quand on s'entretient avec elles, parfois on fait appel au milieu pour faire une intervention pour harmoniser les angles. Donc là, avoir de bonnes relations familiales, amicales et professionnelles, on peut être amené, si c'est un travailleur, à rencontrer les collègues de travail ou la IHI. C'est déjà arrivé. Être réaliste dans ses besoins, avoir confiance en soi, gérer efficacement ses biens, maîtriser ses émotions, la joie, l'amour, la colère, la peine, la tristesse et la jalousie, accepter les critiques et les conseils, prendre soin de soi, ne pas rester dans la solitude, ni la souffrance, ni le silence. Voici un peu 10 éléments que le programme national de santé mentale a établi, sur lesquels nous les praticiens on s'appuie pour aider les personnes qui sont en demande face à nous. On essaie de les orienter à partir de ça. Mais au-delà de ces 10 éléments que le programme national de santé nous donne comme orientation, il peut avoir des particularités. Certaines particularités peuvent se présenter à nous, soit en rapport avec le milieu professionnel ou des problèmes en rapport avec la cellule familiale ou même la communauté.
Alors, pour les 10 conseils que vous venez d'énumérer, est-ce qu'il est possible de pouvoir tous les réussir?
Non, pas, mais de façon simple, c'est les éléments de la vie courante. On ne peut pas prendre le formulaire et prendre numéro 1, je dois manger équilibré, c'est pas ça. Mais quand on regarde notre vie tous les jours, c'est ce qu'on fait. On consomme des aliments. Mais est-ce que l'alimentation est équilibrée? Voilà. Par exemple, même le sommeil. On suggère aux gens de respecter les rythmes biologiques du sommeil. Voici, il y a tout un certain nombre d'éléments que couramment on se retrouve dedans. Quand on lit ça, on regarde comment ajuster son comportement pour obéir à ça. C'est tout.
Donc finalement, ce n'est vraiment pas si compliqué que ça.
C'est très simple. On a des relations en famille, on a des relations dans les milieux professionnels. Mais quand on voit là qu'on nous conseille d'avoir des bonnes relations, mais on peut faire une analyse personnelle et voir comment avoir des bons rapports avec les collègues de bureau, avec la hiérarchie. Mais je pense que lorsque vous voyez déjà ces 10 recommandations, si vous avez une difficulté quelque part, essayez de voir un praticien. Il va voir comment vous accompagner. Je pense que c'est mieux. Quand il s'agit des interventions sur la santé mentale des individus, dans le domaine psychologique, on ne peut pas être figé. Chaque individu est une entité qu'il faut prendre. J'ai un de mes maîtres qui me disait, en médecine, il n'y a pas de maladie, il y a des malades. Donc, ça s'applique aussi en santé mentale. Lorsque un individu a peut-être la difficulté de gérer efficacement ses biens, quand on va le prendre, on va découvrir un niveau de souffrance qui est typique à l'individu. Donc, en fonction de son environnement et de ce niveau de souffrance qu'on va découvrir, on verra comment l'aider.
Face à un tel tabou, on pourrait penser que c'est quelque chose de rare dans les milieux professionnels. Les personnes sont touchées, le silence et la gêne sont bien loin d'aider. Alors, quelles sont les astuces que l'on peut connaître, professeur?
Oui, je sais que dans le milieu professionnel, il y a un stress que les travailleurs vivent. Mais parfois, le stress dans le milieu professionnel peut être normal. Ce stress est souvent en rapport avec les contraintes. Il y a des contraintes, il y a aussi des attentes et des obligations. Quand on exerce un type de profession, il y a des contraintes. Mais parfois, les obligations et les attentes que la hiérarchie impose, il y a la manière de demander. Donc, les responsables ou les supérieurs hiérarchiques doivent avoir aussi un mode de fonctionnement. Cela demande qu'ils aient quand même des notions en leadership et en management pour savoir comment conduire une équipe pour avoir des résultats. Et parfois aussi, les difficultés que les gens rencontrent, ça peut être en rapport avec leur personne, leur personnalité, ou bien il y a des gens qui sont déjà vulnérables, qui sont porteurs de certains troubles mentaux, ou bien dans la relation à l'autre, qui ont un handicap. Donc, tout ça contribue. Et c'est bien l'occasion même que dans le milieu du travail, il y a des interventions médico-psychologiques pour détecter ces souffrances-là qu'on ne va pas laisser comme souffrances errantes pour les aider à s'adapter au milieu du travail et à mieux produire.
À vous entendre, l'employé et l'employeur doivent forcément faire attention à leur santé mentale.
Évidemment, ce qu'on dit ne s'adresse pas à une seule personne, c'est tout le monde, même nous-mêmes praticiens. On fait attention à notre santé mentale.
On sort du milieu professionnel, parlons maintenant de la vie de tous les jours, professeur.
En famille, lorsque la dynamique familiale est perturbée, on ne se sent pas bien. La dynamique peut être perturbée parce qu'on n'a pas une bonne communication entre papa et maman, ou la communication peut être altérée entre les enfants ou entre les enfants et les parents. Donc tout ça, ça occasionne des souffrances. Et même à l'adolescence, ça peut occasionner des troubles de conduite qu'on va observer chez les adolescents.
Professeur Yeo, à vous entendre parler, nous avons tous un problème. Alors pour le spécialiste, est-ce que c'est un recours systématique au professionnel que vous êtes?
Ça dépend du niveau de souffrance. Mais vous savez qu'ici, il y a encore de la réticence à insérer les interventions de psychologie dans beaucoup de domaines. Donc c'est lorsque les sujets se retrouvent dans une situation où ils gênent l'entourage que les gens viennent vers nous. Mais je pense qu'il y a encore un travail d'explication à faire dans tous les milieux pour qu'on comprenne que ces questions, ce n'est pas seulement la maladie mentale, mais c'est des questions de tous les jours. Aujourd'hui, nous, on développe quelque chose dans notre service. C'est par exemple l'accompagnement non médicamenteux dans toutes les maladies chroniques, que ce soit le diabète, l'hypertension et bien d'autres. Alors, et même, on a encore un domaine d'intervention sur la gestion des déficits sexuels, couramment et même au cours des maladies chroniques. Pour tous les remaniements, tous les problèmes que ces sujets rencontrent, c'est des souffrances qu'on ne prend pas bien en charge parce que la plupart du temps, on se contente de traiter la maladie organique, mais tout ce qui est autour n'est pas pris en compte. Voyez-vous, lorsqu'on a commencé ces interventions, on a fait des conférences, quand on a exposé sur la gestion des déficits sexuels, mais je vous dis qu'il y a eu beaucoup de demandes de soins. Même au sein de notre institut, on fait des conférences souvent avec le personnel sur le travail en équipe, et tous ces aspects sont abordés. Et quelques éléments viennent nous voir discrètement pour poser leurs problèmes et on essaie de les accompagner, de les aider. Voici ce que je peux vous dire.
Alors là, toute la population est demandeuse. C'est clair que vous êtes débordé.
Toute la population peut être demandeuse, mais ils ne viennent pas au même moment. C'est vrai que nous sommes débordés dans nos services. Nous, en moyenne ici, nous avons 2000 nouvelles demandes par an de consultation Et quand on cumule les nouvelles demandes et les anciennes consultations, nous sommes au moins à 6000 par an de consultations dans le service d'hygiène mentale, qui sont appuyées par des infirmiers ou des sages-femmes spécialistes en psychiatrie. Voici comment on travaille, il y a une forte demande.
La santé mentale est plus qu'une absence de maladies mentales ou de troubles mentaux. Elle constitue une forme de bien-être et interpelle notre capacité à jouir de la vie et à faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. La santé mentale influence directement le fonctionnement personnel et social des individus, justifiant l'importance d'agir en amont des problèmes pour promouvoir cette santé mentale.
Hello docteur, Bobo, maladie spécifique infantile chez les nourrissons, les bébés et jeunes enfants, des conseils de santé pour prévenir et traiter les maladies les plus fréquentes chez l'enfant.
Hello docteur, deuxième partie de notre magazine de santé et nous parlons à l'instant des oreillons chez les enfants avec le docteur Bois Nicole et les pédiatres. Docteur, qu'est-ce que c'est que les oreillons?
C'est dû à un virus qu'on appelle le virus ourlien et c'est une maladie qui va atteindre principalement la glande parotide, donc on en a des deux côtés. Mais aussi, ça peut atteindre aussi les tissus nerveux. C'est pour ça qu'on parle aussi de parotidite ourlienne. C'est une maladie qui touche surtout les enfants, mais on peut constater, on peut observer les oreillons chez un adulte aussi. Et c'est une maladie qui est fréquente, disons cosmopolite, parce que c'est rencontré sur toute la Terre et elle est contagieuse. Quand il y a un cas d'oreillon, il risque d'avoir une contamination des 12 enfants autour. Et donc, elle évolue par petite épidémie, si je peux dire ainsi.
Alors, docteur Bois, comment se transmet la maladie?
Ben, la transmission se fait essentiellement des personnes infectées vers les personnes non infectées, mais c'est surtout par les gouttelettes de salive, hein, lors des éternuements, en manipulant les mains, il suffit qu'on ait un contact salivaire, on peut avoir facilement ces oreillons-là. Ça peut se faire aussi par les baisers. Voilà. Donc, c'est surtout par les salives, mais la salive, ça peut être une projection directe sur la personne qu'on va contaminer, comme ça peut être par contact avec les mains ou un objet souillé par la salive en général.
Et comment se manifeste cette maladie?
Ben, c'est une maladie infectieuse, donc généralement, c'est des signes infectieux, mais dans un premier temps, quand on est en contact, il y a une période de 2 à 3 semaines, en général, où il n'y a pas de signe. On appelle la période d'incubation. Bien que l'enfant soit infecté, il ne présente aucun signe. Et va apparaître après ce qu'on appelle la phase d'invasion où on va avoir les signes qui vont apparaître, notamment une fièvre, un malaise général qui est assez courant dans les maladies infectieuses. On va avoir des céphalées, l'enfant peut se plaindre de maux de tête un peu. Une otalgie, c'est-à-dire qu'il aura mal à l'oreille, il va indiquer qu'il a un peu mal à l'oreille. Et cette douleur va se propager un peu vers les glandes parotides. La glande parotide se situe entre l'oreille et la maxillaire, dans la mandibule en général. Donc une douleur qui sera un peu plus basse. Voilà, on va sentir donc cette oreille-là à ce niveau. Et par la suite, va apparaître donc la tuméfaction de ces glandes-là, c'est-à-dire ces glandes vont augmenter de volume, ça va grossir. Je pense que les mamans ont déjà vu plus ou moins un oreillon, donc ça va enfler et c'est douloureux. Surtout à la pression, quand on touche, c'est douloureux. Et cette douleur peut se propager encore un peu plus vers les oreilles qui vont devenir un peu plus douloureuses. En général, c'est ça. Et ces signes peuvent s'accompagner parfois de ganglions qui apparaissent dans les environs, des ganglions qui vont grossir un peu. Donc, c'est surtout la tuméfaction de ces glandes parotides-là qui fait penser à l'oreillon d'emblée. Généralement, cet oreillon évolue bien, sans complications. Mais quelques rares fois, il peut avoir des complications, dont l'atteinte des testiculaires. C'est pas très fréquent chez l'enfant, c'est plus fréquent chez l'adulte, l'atteinte des testicules. Et cette atteinte des testicules, il faut insister dessus parce que ça paraît bénin, mais ça peut être cause de stérilité pour l'avenir.
Ça, c'est chez l'adulte. Ou bien l'enfant est aussi exposé à cela?
Plus fréquent chez l'adulte, mais ça peut exister chez l'enfant. Mais généralement, chez l'enfant, c'est plutôt bénin, il n'y a pas cette complication en grande quantité. Donc, vous avez un enfant qui va vous faire un oreillon et du fait de cette complication, plus tard, il peut être stérile. C'est pas fréquent, c'est assez rare. Comme autre complication, on peut avoir des atteintes des méninges, donc une méningite, une encéphalite, une atteinte possible des autres organes, notamment le pancréas, puis ainsi de suite, quoi.
Est-ce que cette maladie virale se soigne, docteur?
Oui et non. C'est-à-dire que c'est une maladie virale, il n'y a pas de traitement spécifique. Voilà. Mais le traitement, il est symptomatique. C'est-à-dire qu'on va traiter les signes que l'enfant va présenter. Donc, pendant l'oreillon, pendant la fièvre, on va donner un antipyrétique, quelque chose pour baisser la fièvre. donc généralement du paracétamol. Pendant la douleur, on peut donner un antalgique, quelque chose pour calmer la douleur. On peut être emmené à mettre l'enfant au repos parce que c'est une maladie qui sonne un peu quand même avec la fièvre, le malaise général. Donc l'enfant peut avoir besoin d'un repos. Et puis, il faut, ce que j'avais oublié de signaler, c'est que quand cette tuméfaction apparaît, l'enfant a parfois des difficultés à mâcher. En ce moment, il faut changer un peu le régime alimentaire. Ils seront plus faciles à mâcher pour l'enfant.
Dites-nous, docteur, est-ce qu'il existe un vaccin? Si oui, à quel moment le faire?
Oui, il existe un vaccin et c'est là que nous allons beaucoup insister parce que l'oreillon, c'est une maladie virale. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir la maladie. Et puis dire, bon, on a ça, c'est fini. Parce que quand on a le rayon, ça confère une immunité qui est très bonne, qui est définitive même. En principe, on ne doit pas avoir les oreillons deux fois. Dans la... Quand on a fait son oreillon, on est protégé à vie. Mais il ne faut pas attendre qu'on ait l'oreillon parce que, comme on l'a vu, il peut avoir quelques conséquences. C'est des conséquences qui, quand elles apparaissent, sont assez sérieuses. Donc, la prévention repose essentiellement sur la vaccination. Il va falloir vacciner les enfants. Et le vaccin se fait à partir de l'âge de 15 mois. C'est un vaccin qui n'est pas obligatoire dans notre programme national de vaccination, le PEV, mais c'est un vaccin qui est conseillé dans toutes les PMI. Hein, c'est ce qu'on appelle le ROR. Donc, en général, les mamans ont déjà entendu parler de ça. Donc, ça se fait à l'âge de 15 mois, à partir de 15 mois. Et on peut faire un deuxième rappel avant l'âge de 6 ans. Et j'invite toutes les mamans à faire ce vaccin parce que ce vaccin est payant. Quand on va en PMI, en général, c'est gratuit. Mais à partir du moment où on donne l'ordonnance pour dire qu'il faut acheter le vaccin et revenir, il y a beaucoup qui ne reviennent pas, qui n'honorent pas cette ordonnance.
Quel conseil pour nos auditeurs?
Quand on a ça, il faut suivre ce que le médecin va dire de faire, la prescription qui sera faite. Mais il faut prévenir. C'est surtout ça, il faut prévenir, donc vacciner d'emblée notre enfant à partir de l'âge de 15 mois. Il faut savoir aussi que quand un enfant a les oreillons, il est contagieux. Il y a une petite éviction scolaire à faire. Ne pas contaminer tous les autres enfants. Vous savez, quand à l'école, les enfants sont en groupe, ils sont en classe, ils jouent ensemble, donc on risque de contaminer tous les autres enfants. En ce moment-là, il faut que pendant la période invasive, on n'aille pas à l'école.
Devant la possibilité de complications pouvant être graves, la vaccination systématique se justifie chez tous les enfants dès l'âge d'un an. Il s'agit d'un vaccin bien toléré et protecteur après une seule injection. Il est associé au vaccin contre la rougeole et la rubéole, vaccin ROR. Un rappel est effectué entre 16 et 18 mois en raison du risque d'atteinte testiculaire. Les garçons seront revaccinés dès l'âge de 11 ans. Des rattrapages sont possibles chez les adolescents et chez les adultes.
Hello docteur, parle des maladies qui touchent les enfants de A à Z. Sur Radio de la Paix.
La santé mentale est une composante importante dans notre santé. C'est la recherche permanente d'un équilibre en toutes les dimensions de notre vie, que ce soit émotionnelle, physique, psychique, sociale, spirituelle ou économique. Notre santé mentale est influencée par notre condition de vie, condition de logement, des activités, des ressources, etc. Les événements marquants de notre vie, les rencontres, deuils, séparations, la société dans laquelle nous vivons et nos valeurs personnelles. La santé mentale s'appréhende aujourd'hui comme un ensemble homogène d'éléments allant d'un pôle positif pour parler de bien-être à un pôle négatif qui est le mal-être, la souffrance physique, les troubles et les handicaps psychiques. Cette conception considère que la santé mentale est une source susceptible de s'épuiser à force d'exposition répétée à des paramètres socio-environnementaux, source de forte tension. C'est ce que nous a dit dans la première partie de ce magazine le professeur Yeo Tenena Jean-Marie. Il est professeur titulaire de psychiatrie à l'UFR des sciences médical d'Abidjan. Il est aussi le chef du service d'hygiène mentale à l'Institut national de santé publique. Dans Hello Docteur, deuxième partie de Santé pour tous, nous avons parlé des oreillons qui se caractérisent par la fièvre et l'inflammation douloureuse de glandes parotides. Outre des mesures de prévention classiques que sont l'hygiène des mains, du nez, nettoyage des objets touchés par un malade, la prévention la plus efficace reste la vaccination contre les oreillons. Pour être efficacement protégé, et ce, à vie, deux doses de vaccin trival contre la rubéole, les oreillons et la rougeole sont recommandées. Maladie infantile contagieuse, les oreillons ne s'attrapent qu'une fois dans la vie. Ces propos sont du docteur Bois Nicole, pédiatre. Fin de Santé pour tous, merci et à bientôt.